Et le journal est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Exactement, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. L'ouverture demain du Salon de l'Agriculture à Paris, porte de Versailles. Emmanuel Macron s'apprête à y passer la journée pour tenter de rassurer les agriculteurs. Analyse à suivre de Steven Goyer. Alors que la Commission européenne, de son côté, reconnaît en creux que la situation du monde agricole se dégrade, elle vient de relever le plafond des aides d'urgence que les États membres peuvent distribuer aux exploitations en difficulté. Explication de Quentin Dickinson. Les frères Klein, djihadistes avérés repérés en Syrie, ont été visés avant-hier par une frappe de la coalition internationale, on l'a appris hier. Alors que les dernières emprises de l'organisation État islamique tombent les unes après les autres, qui sont les djihadistes français toujours présents sur zone. Nous ferons le point dans ce journal avec Florence Sturm. Au Venezuela, deux concerts à la frontière colombienne, un de chaque côté. Nous irons côté Colombie, où doit être lancée une grande opération humanitaire. L'opposant Juan Guaido espère faire entrer vivres et médicaments dans son pays. Richard Branson de Virgin a entrepris de l'aider. Reportage sur place de Benjamin Illy. Et puis l'enquête de cette édition par la cellule investigation de Radio France. La suppression de l'ISF, effectif depuis un an maintenant, a-t-elle servi ou au contraire affaibli l'économie française? Enquête signée Marjolaine Corr à la fin de ce journal. Plusieurs centaines de collégiens, lycéens et étudiants se sont réunis cet après-midi à Paris pour appeler à l'action climatique. Message à l'attention notamment des dirigeants politiques. Sous un déjà chaud soleil et alors qu'une vague de pollution à l'ozone touche la capitale, comme en plein été, les jeunes mobilisés se sont retrouvés pour le deuxième vendredi consécutif sur la place de l'Opéra. Ils ont marché jusqu'à la place de la République. Dans le cortège, plusieurs figures du mouvement lancées également en Belgique, en Allemagne ou encore en Suède. Il y avait là notamment en tête de cortège la jeune Greta Thunberg qui a fortement contribué à lancer le mouvement en Europe. Bonsoir Véronique Roberotte.
Bonsoir.
Si on compare la mobilisation du jour avec celle de la semaine dernière, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu aujourd'hui un effet Greta ?
Oui, plus de manifestants et une vraie fascination. Chacun essaie d'apercevoir Greta Thunberg en tête de cortège. Notre déesse, dit cette étudiante à Sciences Po, emballée dès le début par un personnage qui ne cherche pas à séduire.
Moi, ce que j'ai toujours admiré, c'est qu'elle sourit pas. Elle a un regard extrêmement dur et c'est le regard qu'on devrait porter sur les décisions qui sont prises aujourd'hui. Et elle est sans compromission. C'est une leader qui n'est pas là pour sourire ou pour encourager. Elle est là pour dire voilà l'état du monde et voilà comment il faut le voir avec ce regard difficile mais honnête.
Greta, l'étincelle pour cette maman venue avec ses trois enfants, tous les trois en grève scolaire ce vendredi.
Tous avec Greta. Et quand une jeune fille de 16 ans prend ce rôle-là, qui devrait être pris par les hommes politiques et les femmes politiques, il faut la soutenir pour les petits.
Greta a l'espoir. Pour l'actrice Juliette Binoche, elle est venue sans ses enfants.
Ils manifestent moins que moi. Mais bon, il y a des gens qui sont plus ou moins lents et tout. Mais bon, au fond, ils sont évidemment convaincus. Mais maintenant, il faut agir et agir. En face des autres et la politique, c'est de sortir dans les rues.
Camille est étudiante à Paris Diderot, deuxième manifestation au compteur et plein d'autres à venir parce que les raisons de se mobiliser sont bien réelles.
C'est vraiment vrai que je me lève le matin et je me demande très sincèrement à quoi ça sert d'aller à la fac, de faire 8 ans d'études, de faire une thèse, si dans 20 ans le monde qu'on connaît doit changer en fait.
Vous êtes aussi pessimiste que ça?
Je ne sais pas si c'est être pessimiste, j'ai l'impression que c'est être réaliste en fait. J'essaie de mobiliser ma fac, deux semaines qu'on est deux là, essayer de mobiliser notre fac, de mobiliser Paris 7. On était deux la semaine dernière et on est 40 aujourd'hui, donc ça serait bien qu'on soit 400 la semaine prochaine.
Autre manifestation d'ores et déjà prévue donc la semaine prochaine à Paris, dans d'autres villes aussi françaises et européennes. Et les jeunes français visent surtout le 15 mars, date à laquelle Greta Thunberg appelle à une grève mondiale pour le futur.
Merci Véronique Roberotte. Greta Thunberg avait demandé à être reçue aujourd'hui par Emmanuel Macron, demande acceptée. Elle est actuellement reçue par le président de la République à l'Élysée. Alors pessimisme ou réalisme, c'est le deuxième jour ce vendredi d'un pic de pollution aux particules fines dans la capitale, partout en Ile-de-France, en réaction. La préfecture de police de Paris a réduit la vitesse autorisée sur les routes de 20 km/h. C'est une mesure qui est reconduite pour demain, non seulement en Ile-de-France, mais aussi dans les Pyrénées, dans de nombreux autres départements, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Les départements de l'Orne, du Calvados et de l'Eure sont également touchés, tout comme la vallée de l'Arve. à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris, sur laquelle nous allons revenir. Cette annonce de la Commission européenne qui a décidé de relever le plafond des aides d'État aux agriculteurs confrontés à une crise. Elles vont passer ces aides de 15 000 à 25 000 euros. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir à tous.
En direct de Bruxelles, la Commission dit avoir pris conscience de la relative faiblesse de l'ancien plafond. 10 000 euros de plus donc, qui pourront être accordés avant un accord de la Commission, signe peut-être que la situation des agriculteurs européens ne s'améliore pas.
Oui, c'est cela. Ce plafond fixé au début de la décennie était devenu manifestement trop faible et contraignait de fait les ministères de l'agriculture, comme les agriculteurs eux-mêmes, à multiplier les mini-opérations au prix également de démarches administratives parfois complexes. De plus, le recul sévère des revenus dans la plupart des filières de la terre et de l'élevage rend indispensable ce complément de ressources. D'autre part, cette hausse de 66% du plafond permet désormais aux autorités nationales de gestion de bénéficier enfin d'une latitude d'appréciation de la réalité locale qui, à son tour, autorise le déploiement d'une politique rurale cohérente en cas de crise et non plus de micro-financement à la petite semaine. La décision serait intervenue plus tôt si ce n'était la crainte dans les milieux européens de donner l'impression de céder à la renationalisation de la politique agricole commune et accessoirement de se désintéresser de la ruralité au bénéfice de l'innovation. Longtemps, l'agriculture, première politique européenne pleinement intégrée, a fait l'objet de toute la sollicitude des institutions européennes et a coûté jusqu'à 83% du budget de fonctionnement de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup entendent donner à celle-ci d'autres orientations prioritaires que le sort des paysans, sans se souvenir de cette mise en garde de Daniel Cohn-Bendit, alors député européen. Les agriculteurs ne représentent certes 2% de la population, mais 100% de celle-ci mangent.
Merci Quentin Dickinson. En France, c'est donc demain l'ouverture du Salon de l'agriculture. L'occasion de faire un point autant sur l'état du monde agricole que sur les rapports qu'il entretient avec la politique. Bonsoir Steven Goyer. Bonsoir. Alors que, comme chaque année, l'ensemble de la classe politique s'apprête à aller au cul des vaches, le président de la République, lui, va tenter de battre des records en termes de temps de présence, 100 ans. Il prévoit d'être porte de Versailles tout au long de la journée demain.
Exactement, l'Élysée prévient. Cette fois encore, ce sera journée et soirée encore, puisque le président de la République, toujours adepte de marathon de terrain sur un plan politique comme médiatique, était déjà resté plus de 12 heures l'année dernière dans les allées du salon. Une visite qui passera donc demain par un discours devant 500 personnes, dont une moitié de jeunes agriculteurs, lors duquel Emmanuel Macron compte insister sur un point particulier, l'Europe agricole, manière de lier les problématiques du salon aux enjeux des élections européennes. On parle d'abord d'afficher la volonté d'unité européenne face aux avancées stratégiques russes, chinoises et américaines, mais aussi d'une politique agricole commune plus protectrice pour les producteurs français. Un discours pour rassurer face au Brexit ou encore face aux effets de la fameuse loi alimentation que beaucoup d'agriculteurs estiment ne pas encore bien voir depuis sa mise en route. Mais le passage du président de la République dans les allées du parc des expositions pourrait se faire un petit peu plus calmement que la dernière fois. L'année dernière, il avait été pris à partie aussi bien par des militants véganes que par des exploitants sur un sujet particulièrement sensible, l'interdiction du glyphosate d'ici la fin de l'année 2020. Engagement assoupli, voire mis de côté lors d'une de ses prises de parole il y a un mois, je cite « Est-ce qu'on peut dire il n'y aura plus du tout de glyphosate dans 3 ans ? Impossible, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas vrai. » Alors reste toujours pour demain la question d'une présence des gilets jaunes au salon ou même d'agriculteurs solidaires. Mais l'Élysée explique déjà ne pas prévoir de dispositif particulier à ce sujet.
Merci Steven Goyer. Et cette veille d'ouverture de Salon de l'agriculture est l'occasion de faire des annonces. Encore une qui permettra d'adoucir peut-être encore un peu plus l'accueil demain. Pas question, prévient l'Élysée aujourd'hui, d'inclure l'agriculture dans le futur accord commercial entre l'Europe et les États-Unis. L'enquête sur la mort de Robert Boulin serait-elle relancée ou au moins revivifié? Un deuxième juge d'instruction vient d'être nommé pour tenter de faire la lumière sur la mort de l'ancien ministre du Travail de Raymond Barre, dont le corps avait été retrouvé en 79 dans un étang de la forêt de Rambouillet. Décision prise à la demande de la fille de Robert Boulin, Fabienne Boulin, qui s'inquiète de la lenteur de la justice près de 40 ans après les faits. Alexandre Benalla et Vincent Crase restent en prison. Le président de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a rejeté aujourd'hui le premier recours déposé par les deux hommes, écroués mardi après avoir violé leur contrôle judiciaire. Un coup très dur porté aux djihadistes agissant dans le Sahel. C'est ainsi que Florence Parly a qualifié tout à l'heure l'opération militaire française d'hier au Mali. Opération qui a entraîné la mort d'un des plus éminents chefs de l'émirat du Sahara, l'Algérien Jamel Okacha, nom de guerre Yahya Abou El Aman. Il était numéro 2 du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans principal, l'Alliance djihadiste au Sahel. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Hier a également été annoncée la mort probable de Fabien Klein en Syrie, tué avant-hier par une frappe de drone de la coalition. L'homme était considéré comme la voix ayant revendiqué au nom du groupe État islamique les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Son frère a également été blessé dans cette attaque. Des frères Klein, tristement célèbres, mais qui ne sont évidemment pas, Florence, les seuls Français encore présents en zone irako-syrienne.
Effectivement, certains sont encore entre les mains des forces kurdes en Syrie. C'est le cas de Thomas Barnois, un albigeois de 37 ans, considéré comme un vétéran du djihad, condamné en 2009 aux côtés de Fabien Klein dans le dossier de la filière d'Artigat. Adrien Guial, lui, a été identifié comme la voix de la revendication de l'assassinat des deux policiers de Magnanville et du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016. Émilie Koenig, l'une des djihadistes françaises les plus connues, son nom figuré sur la liste noire de la CIA, se trouve quant à elle dans le camp de Roge, au nord de la Syrie, avec une centaine d'autres femmes et enfants. Parmi les terroristes recherchés par la justice française figurent également trois proches d'Amélie Koulibaly, le tueur de l'hyper-cacher. Sa compagne, Ayad Boumediene, était partie pour la Syrie à la veille des attentats de janvier 2015 en compagnie des frères Belloucine qui auraient été tués lors de combats sur les zones de guerre. Ils font tous les trois partie des 14 personnes renvoyées aux assises pour les attentats de Charlie, Montrouge et l'hypercacher. La justice française continue en effet de poursuivre et de prononcer des condamnations à l'encontre de terroristes présentés comme morts, car certains djihadistes ont ressurgi après que leur décès a été annoncé. On pense au Niçois Omar Diaby, l'un des plus importants recruteurs de jeunes djihadistes. En août 2015, il avait fait circuler l'annonce de sa mort avant de réapparaître dans des vidéos de propagande. Omar Diaby a arrêté depuis par un groupe dissident de l'État islamique, mais qui, selon certaines sources, aurait retrouvé la liberté il y a seulement quelques jours.
Merci Florence Turme. À proximité immédiate de la frontière vénézuélienne, des milliers de personnes sont d'ores et déjà rassemblées à Cucuta, village frontalier situé en Colombie. Elles assistent, ces personnes, à un méga concert, le Venezuelan Head Live, organisé par le milliardaire britannique Richard Branson. Ce concert est organisé en faveur de l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays à l'appel de l'opposant vénézuélien Juan Guaido. L'idée étant aussi de lever 100 millions de dollars pour tenter de contrer les effets des pénuries de vivres et de médicaments sur place. Le reportage de notre envoyé spécial Benjamin Illy.
Au fond, à gauche, dit le monsieur, pour suivre cette foule à perte de vue, en rouge, en jaune, en bleu, les couleurs du Venezuela. Jour de concert à grande échelle.
Et où?
Où ça? Et voici Richard Branson, l'organisateur du concert, le milliardaire britannique. Mr. Branson, j'ai de l'espoir, ce sera un jour historique, ce sera un jour rempli de joie avec de la super musique. Et nous espérons qu'ils vont ouvrir le pont pour laisser passer l'aide humanitaire. Cet homme qui vend des casquettes aux couleurs du Venezuela appelle à la chute du régime, que Maduro tombe. Jusqu'à samedi, et après c'est fini pour lui. Cette Vénézuélienne ne veut qu'une chose, la liberté pour son pays. C'est un nouveau jour, une renaissance, dit-elle. Liberté, scande le public devant la grande scène du Venezuela Head Live, alors qu'à 300 mètres de là, de l'autre côté de la frontière, il y a le concert Pro Chavis. À 300 mètres de là, Nicolas Maduro a choisi de rester sourd aux cris de ces Vénézuéliens qui ont décidé qu'il n'était plus leur président.
Benjamin Illy. En Algérie, plusieurs centaines de manifestants ont défilé aujourd'hui dans le centre d'Alger et dans plusieurs autres localités du pays contre la perspective d'un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Ce sont des appels en ce sens qui ont été lancés sur les réseaux sociaux, qui ont été entendus, des centaines de personnes qui ont défilé notamment dans le centre d'Alger où toute manifestation est pourtant officiellement interdite depuis 2001 et où la police intervient généralement assez rapidement pour empêcher la moindre tentative de rassemblement. Il y a eu des heurts. Reportage de Leïla Berato.
En début de matinée, des premiers manifestants avaient été interpellés par les forces de sécurité déployées dans toute la capitale. Mais alors que la prière de la mi-journée se terminait, des milliers de personnes se sont dirigées vers le centre-ville d'Alger. beaucoup de jeunes qui scandaient des slogans contre le cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, drapeau sur le dos et téléphone portable à la main, diffusant en direct sur les réseaux sociaux. Nadia avait préparé un t-shirt avec le chiffre 5 barré de rouge.
Y'en a marre ! Y'en a marre de ce pouvoir ! C'est-à-dire, il nous a assez réprimés, il nous a assez... Il a mis le pays dans le chaos !
Sofiane, médecin, lui, est venu manifester avec des amis.
Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je représente la jeunesse algérienne qui a fait des études, qui s'est donnée à fond pour se construire un avenir. Et malheureusement, on n'arrive pas à le faire parce qu'il y a des gens qui nous stoppent et il y a ce système qui nous stoppe.
Un premier cortège a traversé le centre-ville et remonté vers le palais du gouvernement, puis a poursuivi vers la présidence sans heurts. Pour Walid, c'est une manifestation inédite.
Moi, je la trouve extraordinaire. C'est une organisation spontanée. En même temps, c'est tout le monde joue le jeu, donc tout le monde respecte la trajectoire. On ne sait même pas où on va maintenant.
En fin d'après-midi, des gaz lacrymogènes ont été tirés près de la présidence, mais d'autres cortèges continuaient à défiler dans le centre d'Alger.
Reportage de Leïla Berato, il est 18h15 sur France Culture. C'est la suite du journal de 18h avec maintenant un retour à la politique et un retour en France avec la question de l'ISF et de son rétablissement qui est demandé à longueur de manifestations par les Gilets jaunes et aussi assez largement dans les discussions du grand débat national. C'est sur cette question que porte ce soir l'enquête de la cellule d'investigation de Radio France. Bonsoir Marjolaine Corr.
Bonsoir.
L'impôt de la solidarité sur la fortune a été remplacé par un impôt sur la fortune immobilière il y a maintenant un an. Alors est-ce que ça a servi ou au contraire affaibli l'économie ? Vous avez enquêté sur les premiers effets de la réforme.
Et ce que l'on constate en premier lieu, c'est un gain de pouvoir d'achat notable pour les foyers les plus aisés. Le fait de ne plus être imposé sur leur patrimoine financier leur a fait gagner jusque 14% de revenus disponibles. Écoutez l'économiste Étienne Lehmann.
On voit que le patrimoine immobilier touche les classes moyennes, les moyennes supérieures, alors que le patrimoine vraiment financier, qui est au cœur de la réforme transformant l'ISF en l'IFI, est beaucoup plus concentré dans les patrimoines les plus élevés. Donc c'est clair que cette réforme a bénéficié d'une part aux redevables de l'ISF qui sont concentrés dans le haut de la distribution des revenus, et parmi ces redevables à l'ISF, en plus, plutôt sur les très riches.
Autrement dit, donc, les riches sont devenus plus riches, voire beaucoup plus riches. Mais l'idée qui sous-tendait cette réforme, Marjolaine, c'était que cette richesse allait pouvoir donner envie aux Français d'investir dans l'économie.
Oui, sauf que pour l'instant, les professionnels que j'ai rencontrés sont plutôt sceptiques. Écoutez ce que m'a répondu cette gestionnaire de patrimoine lorsque je lui ai posé la question.
On a des clients qui avaient un actif financier très important, qui avaient de l'immobilier. Pour certains, qui payaient des sommes comme 80 000 euros d'ISF avant, se sont retrouvés à payer que 20 000 euros d'IFI aujourd'hui, quoi. Pour eux, ça a été une aubaine. Quelqu'un qui payait 80 000 qui se retrouve à payer 20 000, la première question, il m'a dit « Mais comment se fait-il que je paye si peu ?» Ben, je dis, ben voilà, parce que ça rentre plus. Il y a beaucoup de biens qui deviennent exonérés de l'IFI. Pour eux, c'est merci Macron, quoi. Mais personne ne m'a dit en face, ben écoutez, moi cet argent, je vais le réinvestir ailleurs. Personne n'a eu cette réflexion.
Voilà, donc pour l'instant, Marjolaine, c'est très clair, les effets positifs semblent se faire attendre. En revanche, d'autres effets sont, eux, déjà bien palpables.
Oui, et des effets qui n'étaient pas vraiment attendus. Il semble par exemple qu'on investisse moins dans certaines PME innovantes. Et ça, c'est Antoine Basquira, à la tête d'une agence de notation de start-up, qui me l'a expliqué.
Quand, du jour au lendemain, puisque ça a été relativement brutal, on a vu que l'ISF s'est arrêté, un des intérêts d'investir dans les startups et les PME innovantes, cette niche fiscale, a disparu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les investisseurs qui sont restés actifs ont diminué.
Et autre effet inattendu, une baisse des dons pour les associations. Là encore, les plus fortunés préféraient faire un don plutôt que de donner leur argent au fisc. Mais en faisant fondre l'impôt sur la fortune, l'État a aussi fait fondre les dons.
Ce qui porte sur des sommes importantes ?
Assez, oui. Et c'est Pierre Siquier qui est à la tête de France Générosité, un syndicat qui représente une centaine de fondations et associations, qui a fait ses calculs.
Sur l'ISF, il y avait en 2017 à peu près 300 000 éligibles à l'ISF. Et ces 300 000 éligibles ont rapporté à peu près 300 millions d'euros. En 2018, il n'y avait plus que 150 000 éligibles à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ce qui veut dire que mécaniquement, il y avait une baisse des dons, et nous avons constaté, nous, dans nos adhérents, 55% de baisse de dons, c'est-à-dire à peu près 150 millions, peut-être un peu moins, d'euros de moins en termes de collecte. Donc c'est vrai que c'est une somme très importante.
Alors Marjolaine, si on a d'un côté une réforme qui ne profite pas à l'économie et qui, d'un autre côté, affaiblit certaines PME et associations, la question c'est pourquoi persister ?
Eh bien parce que beaucoup pensent qu'il est trop tôt encore en fait pour en tirer un bilan définitif, mais aussi parce qu'Emmanuel Macron pense que revenir en arrière serait un mauvais signal envoyé aux investisseurs. En revanche, il n'exclut pas de corriger les effets qu'on vient d'identifier et selon son entourage, il pourrait introduire une sorte d'obligation d'investir dans l'économie ou dans les associations, mais ça, on le saura certainement à l'issue du grand débat.
Merci Marjolaine Corr, votre enquête est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Grisaille et brouillard demain au lever du jour. Ce samedi sera marqué par une toute relative baisse des températures. Le soleil, d'après Météo France, restera globalement généreux. Quelques gelées matines à lever du jour et des températures maximales comprises entre 15 et 20 degrés.